10TU sur RFI.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 8h10 en temps universel, 10h10 ici à Paris, l'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'avenir politique de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. A-t-elle des ambitions politiques? En tout cas, samedi, elle a parrainé le lancement d'une coalition baptisée Mouvement Génération Capable, rassemblant tous ses groupes de soutien. Devant ses sympathisants réunis au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan, elle a livré sa vision de la Côte d'Ivoire, un discours aux allures de meeting politique. Alors faut-il y voir un premier pas vers la création d'un parti? Quelle est aujourd'hui sa popularité? A-t-elle un avenir politique sans Laurent Gbagbo, avec qui les relations se sont fortement détériorées ces derniers mois. On en parle ce matin, vos réactions nous intéressent, 33 9 693 693 70 et j'ai sous les yeux quelques-unes de vos réactions postées sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI. Vous avez écouté un journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien vous nous appelez et on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre, de vous expliquer l'actualité en direct. On commence avec vous Nicolas, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour aux milliers d'auditeurs de la radio mondiale et bienvenue à Kigali.
Kigali, capitale du Rwanda, d'où vous nous appelez. Vous avez des questions après l'interdiction du concert de l'artiste congolais Werrason qui était prévu samedi dernier à Paris.
Exactement. Alors, pour interdire ce concert, la préfecture de police de Paris avait affirmé que l'artiste est proche du régime de Kinshasa, ce qui leur avait fait craindre donc des troubles avec des spectateurs opposant au régime. Et donc, du coup, j'aimerais savoir sur quelles informations s'est basée la préfecture pour craindre des débordements à ce concert.
Oui, en tout cas, samedi, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, l'artiste a fait part de sa colère. Il a dénoncé, je le cite, un sabotage des autorités françaises. Bonjour Charlotte Cosset.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. D'abord, que dit l'arrêté de la préfecture de Paris?
Alors, cet arrêté dit que l'artiste Werrason est considéré comme proche de l'ancien président congolais Joseph Kabila et son successeur, l'actuel président Félix Tshisekedi. Le préfet évoque un contexte particulièrement tendu et violent entre partisans et opposants. Ce concert suscite une mobilisation croissante chez les opposants radicaux congolais de la diaspora, installés à la fois en France et dans les pays voisins européens, poursuit-il. Le préfet s'appuie pour étayer ses craintes sur plusieurs déclarations de manifestation le jour du concert aux abords du Zénith, avec, je cite, l'intention d'en découdre avec les spectateurs du concert et, je cite encore, de créer des désordres à l'intérieur et à l'extérieur de cette salle de concert.
Oui, et puis autre argument sur lequel s'appuie le préfet, le précédent Fally Ipupa.
Effectivement, le concert de cette autre star congolaise à Paris le 28 février 2020, je vous le rappelle, avait été émaillé de troubles graves à l'ordre public, souligne le décret. Alors il fait le détail, hein, 44 véhicules particuliers, 132 roues et 4 utilitaires avaient été dégradés par incendie et 60 personnes interpellées, détaille le préfet, et d'assurer que les groupes radicaux ayant créé ces troubles sont les mêmes dans le cas de Werrason. Le préfet conclut donc à un risque sérieux de troubles graves à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité des spectateurs et qu'il convient donc de prévenir par des mesures adaptées.
Et donc d'annuler ce concert prévu samedi dernier au Zénith de Paris. Vous avez une autre question, Nicolas?
Oui, effectivement, Juan, j'ai une autre question. Alors, sachant que d'autres artistes congolais comme Ferré Gola et Koffi Olomide vont se produire respectivement le 7 novembre au Casino de Paris pour Ferré Gola et le 27 novembre à Paris, la Défense Arena pour Koffi Olomide. Doit-on craindre là aussi l'annulation de leur concert, Juan?
Alors, Charlotte Cosset.
Bah Nicolas, c'est un petit peu difficile de le prédire, hein, mais c'est en tout cas ce que craint Bertrand Torpedo, par exemple. Il est l'organisateur du concert de Werrason à Paris et de manière plus générale, il produit à Paris des spectacles d'artistes africains prévus depuis plus d'un an. Par exemple, ce spectacle de Werrason a été annulé vraiment à la dernière minute, ce qu'il regrette. Il s'inquiète donc de l'avenir des spectacles d'artistes africains en France. Il regrette que la préfecture n'ait pas sollicité l'équipe d'organisation. On a l'impression que la musique africaine congolaise est banni du territoire français et qu'à présent on peut annuler tous les artistes, dit-il, sans chercher à savoir si c'est vraiment réel ou pas, si ces menaces sont confirmées. Alors pour lui, il s'agit pour les autorités françaises de s'éviter facilement des possibles difficultés, alors que la préfecture doit gérer presque chaque samedi, hein, on vous le rappelle les auditeurs, des manifestations à Paris. Une question aussi peut-être d'image, Juan, hein, dans son décret, le préfet insiste sur le fait que les images de troubles en marge du concert de Fally Ipupa avaient été largement diffusées et commentées par la presse nationale et étrangère.
Et je le disais en préambule, Fally Ipupa a organisé samedi à Kinshasa une conférence de presse et lors de cette conférence, il a annoncé qu'il allait prochainement se produire à Kinshasa, ce sera début octobre, donc dans quelques jours, et qu'il avait été contacté pour un concert en Suisse. Nicolas, a-t-on répondu à vos questions ?
Merveilleusement bien, merci à vous Ron et surtout merci à Charlotte Cosset.
Charlotte
merci
Cosset Nicolas. Du service Afrique de RFI, 10h16 ici à Paris. Une autre consoeur me rejoint dans ce studio, elle est journaliste au service international. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Et spécialiste notamment de la situation en Haïti, on vous a donc demandé de nous rejoindre ce matin car Clément, qui est au Bénin à Parakou, a des questions justement sur Haïti. Bonjour Clément.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu.
Bonjour RFI.
Nous vous écoutons avec Stéphanie Schuller.
Oui, j'appelle en direct de Parakou au Bénin.
Oui.
Et j'ai une préoccupation. L'émissaire des États-Unis en Haïti a démissionné pour dénoncer l'expulsion des migrants haïtiens. Alors ma question est que Daniel Foote, qui était comme ça on l'appelle, a également condamné l'ingérence des États-Unis dans la politique haïtienne. Sur quel fait appuie-t-il exactement ?
Oui, démission surprise, effectivement, de l'émissaire des États-Unis nommé il y a seulement deux mois, Stéphanie Schuller. La lettre de démission de l'émissaire spécial des États-Unis en Haïti a fait l'effet d'une bombe la semaine dernière.
Oui, et pour cause, Juan, c'est la première fois qu'un haut fonctionnaire américain encore en service critique l'ingérence permanente des États-Unis en Haïti. Alors, je vais vous donner quelques exemples et sachez-le, Clément, cette liste est loin d'être exhaustive. Prenons par exemple l'élection présidentielle à la fin de l'année 2010, quelques mois seulement après le terrible tremblement de terre. Selon les autorités électorales haïtiennes, deux candidats se qualifie pour le second tour. Il s'agit de Jude Célestin et de Mirlande Maniga. Ce résultat ne plaît pas à Washington, qui dépêche une mission de l'Organisation des États américains sur place, officiellement pour des soupçons de fraude. Un recomptage des voix est entrepris dans la plus grande opacité. Au final, Jude Célestin est évincé du second tour au profit d'un certain chanteur dont vous connaissez très certainement
Michel
le nom.
Michel Martelly.
Exactement, Michel Martelly. Et c'est lui qui emportera finalement la présidence présidentielle, alors que initialement il n'était même pas au second tour.
Et dans les années qui suivent, Stéphanie Schuller, les États-Unis soutiennent Michel Martelly coûte que coûte.
Et ça alors que le nouveau président haïtien ne respecte pas les échéances électorales, notamment il remplace les maires dont le mandat est arrivé à terme par des agents intérimaires qu'il choisit lui-même. Et en janvier 2015, la crise institutionnelle monte encore d'un cran. Faute d'élections organisées à temps, les mandats des députés cette fois et de deux tiers des sénateurs touchent également à leur fin. Et là, nouvelle ingérence flagrante de Washington. L'ambassade des États-Unis publie un communiqué qui dit « Washington va continuer, quoi qu'il arrive, de travailler avec Michel Martelly, même si le président haïtien doit légiférer par décret. C'est un affront énorme pour les élus qui, à ce moment-là, sont encore en poste. Et alors que les tractations de la dernière chance sont en cours au Parlement pour tenter de voter une prolongation éventuelle exceptionnelle de leur mandat et ainsi éviter la crise, l'ambassadrice personnellement des États-Unis s'invite au Parlement sans y être conviée.
Ah oui.
Je me souviens très bien de cette scène, j'y étais. C'était un scandale absolu et cela montre très bien que Washington ne porte pas la souveraineté d'Haïti en très haute estime. Est-ce qu'on imagine par exemple l'ambassadeur des États-Unis débarquer dans une session de l'Assemblée nationale à Paris?
Évidemment. Et ce soutien américain, Stéphanie Schuller, s'est poursuivi durant la présidence de Jovenel Moïse.
Absolument. Washington faisait même partie des rares appuis de ce chef d'État sous lequel, comme vous le savez, la situation politique, économique, sociale et surtout sécuritaire s'est dégradée comme jamais auparavant en Haïti. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est le Core Group, vous savez, ce groupe qui regroupe les pays, entre guillemets, amis d'Haïti, avec là encore à sa tête les États-Unis, qui a un installé le Premier ministre Ariel Henry au pouvoir, alors que son prédécesseur, Claude Joseph, semble également tenir à ce poste. La liste est donc longue, Clément, mais pour faire court, toutes ces actions américaines ont laissé des traces dans la société haïtienne. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'Haïtiens ne veulent même plus voter. À quoi bon si, à la fin, c'est Washington qui décide?
Oui, voilà quelques exemples de l'ingérence des États-Unis en Haïti. Il n'y a pas que les États-Unis qui s'ingèrent dans la politique au quotidien en Haïti. Vous avez une dernière question, il me semble, Clément?
Oui, j'ai une dernière question, Juan. Washington a-t-elle réagi à cette démission?
Y a-t-il eu des réactions aux États-Unis, Stéphanie?
Alors, pas, pour l'instant, pas de grandes réactions pour ce que a fait en fait l'administration Biden, c'est de démolir l'image de ce diplomate Daniel Foot, pourtant assez chevronné. Mais c'est quand même aussi après le départ de cet émissaire que le président Biden a fait deux annonces. Premièrement, l'utilisation des chevaux pour sécuriser la frontière américaine est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et les gardes-frontières responsables des violences contre les migrants haïtiens vont devoir payer pour leurs actes, mais pas encore d'annonce concrète et probablement il n'y en aura pas sur la politique américaine en Haïti.
Stéphanie Schuller, merci infiniment. Clément, on a répondu à vos questions.
Stéphanie, merci beaucoup. Merci, c'est un grand défi à suivre. Merci, Juan.
Eh bien, je vous en prie. Et allez, quand on se remercie, eh bien, je vous remercie de votre fidélité. Voilà, le monde est beau. Tout le monde se remercie. À bientôt, Stéphanie Schuller.
À bientôt.
10h21 ici à Paris. Vous nous appelez. Vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous les envoyer sur la page Facebook de l'émission. Mais n'oubliez pas, je le répète souvent, n'oubliez pas de nous envoyer en message privé vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler. L'intérêt de cette émission, c'est de vous avoir en direct. C'est de vous entendre, de vous donner la parole. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons à Ouagadougou, d'où nous a contacté Roland. Bonjour Roland.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous avez des questions après le démantèlement d'un vaste réseau de contrebande de carburant dans votre pays, le Burkina.
Oui. J'aurais appris que 72 personnes ont été arrêtées au Burkina Faso pour contrebande de carburant. Et selon le procureur du Faso, ce trafic servirait à financer le terrorisme. Du coup, j'ai deux interrogations. Comment le lien entre ce trafic et le financement du terrorisme a-t-il été fait? Et deuxièmement, quel impact ces arrestations auront-elles sur le financement du terrorisme au Sahel?
Oui, effectivement, 72 personnes interpellées, mais aussi des milliers de litres de carburant de contrebande saisis, des dépôts de carburant fermés. Bonjour Yaya Boudani.
Bonjour Juan, bonjour à notre auditeur de Ouagadougou.
Roland, qui nous appelle effectivement de la capitale du Burkina Faso. Yaya, vous êtes sur place notre correspondant. Le procureur a ouvert donc une enquête pour contrebande aggravée, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Et c'est ce dernier point qui intéresse Roland. Que sait-on exactement, Yaya Boudani?
Alors, pour commencer, il faut dire que la justice va essayer de confirmer. Pour le moment, on parle de présumé. Alors déjà, des journaux d'investigation avaient mené des enquêtes et avaient réussi à faire le lien entre les quantités de carburant qui passaient par le Burkina Faso et qui se retrouvaient dans des régions où des groupes terroristes sévissent. Alors ainsi, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption a identifié certains dépôts illicites de produits d'hydrocarbures dans plusieurs régions du pays. Après avoir informé le procureur, cette vaste opération a été menée. Il faut savoir que les principaux auteurs des faits de contrebande étaient identifiés également dans plusieurs régions, notamment les régions de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Plateau Central, du Centre-Sud et du Centre-Est, des régions qui sont en proie aux attaques terroristes. Et le journal Economist, qui est un journal très sérieux, alors, a révélé qu'entre 400 et 500 camions citernes déversaient de manière frauduleuse du carburant sur le territoire burkinabé chaque année.
Ah oui.
Et ce qui engendrait des pertes d'environ 10 milliards de francs CFA de recettes au niveau des recettes douanières.
Allô?
Je
pensais que la liaison téléphone avait été coupée. Donc, ce qu'on comprend aussi, c'est que ces camions chargeaient le carburant au Niger et au Bénin avec pour destination le Mali. Et visiblement, si on en croit les enquêteurs, ce carburant n'arrivait jamais en territoire malien.
Non, puisque dès que les camions rentraient au Burkina Faso, ces camions étaient identifiés, mais à la sortie, ces camions ne passaient pas. Et selon les enquêteurs, le carburant se retrouvait dans des zones en proie au terrorisme. Donc, on se demande comment est-ce qu'un camion qui n'est pas destiné pour le territoire burkinabé se retrouvent sur le territoire burkinabé avec la complicité notamment de certains Burkinabés. Donc, c'est ce que la justice tente d'éclairer.
Ouais. A-t-on une idée de l'impact des arrestations de la semaine dernière, Yahya Boudani ?
Alors, pour le moment, on sait qu'il y a 72 personnes qui ont été interpellées, mais il faut signaler que plusieurs personnes sont toujours recherchées parce qu'elles auraient pu passer entre les mailles du filet et pas des moindres. Donc, du coup, l'impact qu'aura cette opération-là, c'est de réduire le ravitaillement au niveau de ces zones en proie aux terroristes. Parce que, comme vous le savez, pour mener la plupart des attaques, les groupes armés terroristes se servent des motocyclettes ou des véhicules. Et si ces hommes armés n'arrivent plus à se ravitailler en carburant, leur mobilité sera réduite et leurs activités en prendront certainement un coup. Et quand on jette déjà un œil sur les régions qui sont ciblées, on se rend compte que ce carburant-là servait véritablement à faire fonctionner ce groupe d'armées terroristes-là, qui se servait aussi, il faut le noter, de la perception de certains impôts et taxes sur certaines activités dans ces régions-là pour leur financement.
Bon, on attend en tout cas la conclusion de l'enquête du procureur. Merci infiniment, Yahya Boudani, correspondant de RFI au Burkina Faso. Roland, bonne journée à Ouagadougou. Je vais me faire le porte-parole de Luc. Luc qui était avec nous hors antenne il y a quelques instants et depuis, il ne répond plus. Luc avait des questions concernant les nombreux incidents qui ont émaillé le championnat de football français depuis le début de la saison. Bonjour Christophe Diranzi.
Bonjour Juan.
Journaliste au service des sports de RFI, pas moins de 7 ou 8 incidents ont eu lieu en quelques semaines. On a vu ces images qui ont gâché la fête, hein, la fête, d'autant que c'était le retour des supporters dans les stades après 18 mois de crise sanitaire. Et donc Luc voulait savoir comment expliquer que ce retour du public dans les stades après une année 2020 à huis clos entraîne autant d'incidents. Peut-on parler de rivalité entre les villes ?
L'explication la plus rassurante. Vous l'avez dit, le retour après la crise Covid a forcément excité pas mal de supporters ultra, notamment lors des fameux derbies. On a vu Lens-Lille où ça a été particulièrement chaud, même si ce n'est pas le seul cas concerné, hein, puisqu'il y a eu notamment le match entre Angers et l'OM qui n'est pas spécifiquement un derby. On peut considérer manifestement que certains groupes ultra avaient franchement envie d'en découdre depuis un certain temps et de raviver un petit peu leur appartenance et leur affirmation d'une certaine supériorité par rapport à d'autres groupes de supporters. Ça donnait des incidents qui n'ont pas forcément été très très bien maîtrisé parce que manifestement la sécurité dans les stades n'est pas encore tout à fait revenue à celle du niveau qui était celle d'avant le Covid et des choses qui ont été modifiées, les stadiers notamment ne sont plus les mêmes, donc il y a toute une mécanique qui n'a pas été mise en place. En plus, dans le cadre particulier d'Angers OM, il y a des travaux en ce moment dans ce stade. Et du coup, le parquage visiteur n'est pas tout à fait le même que celui d'habitude. Et la proximité avec les supporters traditionnels fait que, surtout quand on sait que les supporters de l'OM sont toujours très chauds, ça a forcément un petit peu excité les choses dans ce cadre-là.
Ouais, Luc nous demande que font les organisations telles que la Ligue de football professionnel pour empêcher ces incidents, la Ligue professionnelle de football qui organise le championnat de France.
Oui, bien sûr. Alors, il y a toute une matrice de sanctions qu'on connaît déjà et qui ont déjà été mises en place dans le cas des matchs qui ont vécu des incidents, dont des matchs rejoués, des matchs à huis clos, des fermeture de parquage des visiteurs, des sanctions d'un point pour les clubs où se sont passés des incidents, notamment Lille, donc qui a pris un point de suspension ferme et un point avec sursis. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça pénalise l'ensemble des supporters qui n'ont pas forcément fait grand-chose dans le cas de ces incidents. Et donc,
ce sont des sanctions collectives.
Collectives. Oui. On réfléchit plutôt pour l'instant à passer à des sanctions plus individuelles. Ça a déjà été le cas, notamment à Lens, où les autorités de Lens, le club lensois, a carrément décidé de prononcer des interdictions de stade contre 17 supporters qui ont été formellement identifiés comme fauteurs de troubles par les caméras de vidéosurveillance. Et ces sanctions sont dures, hein. Elles vont de 9 mois à 3 ans, donc c'est particulièrement fort. Les sanctions individualisées sont probablement donc le meilleur moyen de répondre de façon juste à un phénomène qui ne concerne qu'une minorité. Puis là, il y a aussi des sanctions judiciaires à venir, puisque dans le cadre de Nice-Marseille, le parquet Nice a requis 6 mois de prison ferme contre le supporter qui avait frappé Dimitri Payet, oui. Donc à l'occasion de ces incidents. Malgré tout, Bah, on sait que ça n'est pas que le monde du foot qui peut faire des choses bien. Et d'ailleurs, il y a demain une réunion avec le ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, avec toutes les parties prenantes de ce phénomène, parce que les pouvoirs publics doivent aussi prendre la mesure de toutes ces responsabilités et faire en sorte que ça se calme très, très rapidement.
Merci Christophe. Direm Zian du service des sports de RFI, Luc à Akasato. J'espère que vous avez eu la possibilité d'écouter malgré tout nos explications. Vous restez évidemment à l'écoute des RFI. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après. Nous parlerons de la Côte d'Ivoire et surtout de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Et oui, a-t-elle des ambitions présidentielles ? À tout de suite.